localité. C'est sur Radio Parole de Vie. Bonjour à toutes et à tous. Jean-Ruel, bonjour.
Bonjour.
Jacques Arès, bonjour.
Bonjour
également. Bienvenue dans nos studios. Vous êtes tous deux membres d'Attaque et membres du bureau du comité Attaque Saint-Malo-Gervais. C'est bien ça. Et vous organisez les 12 et 13 septembre, soit très bientôt, deux journées d'échange autour de l'évasion fiscale, de la spéculation financière et des paradis fiscaux. Alors, avant d'y revenir un peu plus longuement, rappelez-nous ce qu'est Attaque au juste.
Alors Attaque donc est une association d'éducation populaire. Attaque est une association qui, dans son acronyme, a pour objectif de signaler qu'il est une association pour la taxe sur les transactions financières et l'action citoyenne. Voilà. Et c'est une association donc nationale, mais qui travaille en lien avec des attaques des pays voisins, dirons-nous, des pays européens.
Pas seulement.
Et de 43 pays, bon, avec un premier réseau qui est le réseau européen, et puis ensuite un certain nombre de...
Dans le monde.
Voilà, de réseaux dans le monde. Et donc, nous comptons 10 000 adhérents sur le plan national, bon, bon an, mal an, et sur le plan malouin, nous avons actuellement enregistré 42 adhésions. Donc voilà, c'est un chiffre qui est à peu près stable depuis 2 ans et nous avons pour objectif donc de développer au niveau malouin les campagnes que le national nous programme, mais également dans notre initiative, nous souhaitons nous servir des contextes locaux pour développer des pensées tout à fait autonomes, dirons-nous.
Alors Jean-Ruel, reviens avec nous sur quelques combats que vous avez menés avec le comité local ces derniers mois, pour que les auditrices et les auditeurs puissent avoir une petite idée de la dynamique que vous conduisez.
D'accord. Donc, nous avons mené plusieurs actions. Nous avons mené une première action qui était une série de conférences. Conférences, donc, sur des thèmes très larges. Et là, c'était au mois de... Puisque nous travaillons en général entre moitié d'année civile, donc au mois de novembre dernier, sur... le problème des semences et l'accaparement, justement par le moyen des brevets, du pouvoir qu'avaient les paysans jusqu'à présent de faire leur sélection, de vendre leur récolte et de développer une économie locale qui actuellement était, je dirais, en passe de passer dans les mains des grandes organisations pharmaceutiques, etc. Nous avons une deuxième conférence qui s'est déroulée, je crois, en février, me semble-t-il. Donc, il parlait des partenariats publics-privés, où justement notre conférencière, qui est membre du conseil d'administration d'Attaque, qui est Rosane Perrault, a développé une réflexion sur la façon dont ces partenariats publics-privés étaient une bonne illustration de ce qui actuellement est mis en place dans les, on va dire, dans les structures ultralibérales que l'on voit apparaître dans tous les pays de l'Europe, et qui sont la socialisation des pertes et la privatisation des profits. Donc voilà.
C'est-à-dire on fait payer à tout le monde
ce qui coûte cher et les bénéfices par contre sont réservés aux actionnaires, aux investisseurs et donc on se rend compte par exemple que certaines réalisations ont coûté tellement cher au trésor public finalement à la finance publique qu'on a été obligé, comme dans la région parisienne,
les hôpitaux de
mettre fin à ce contrat tellement finalement il y avait de malfaçon. Et également aussi, le résultat justement de cette mauvaise gestion du chantier avait eu pour résultat de provoquer des pertes importantes sur les financements, à la fois les soins, mais également la gestion et la maintenance des bâtiments.
Comment est-ce qu'on peut l'expliquer très brièvement, cette mauvaise gestion que venait dénoncer Jean-Ruel?
Alors, c'est assez simple finalement. Disons que le partenariat public-privé, il est de confier à des entreprises ce qui appartenait antérieurement au pouvoir régalien, au pouvoir de l'État. Et donc, l'État n'exerce plus réellement de pouvoir de contrôle. Donc, cette mission de contrôle, on va dire, de la qualité, des réalisations, etc., elle est transmise actuellement, elle est donnée, elle est confiée à des organismes privés. Ce qui, forcément, a pour résultat de favoriser davantage, on va dire, les plus-values liées au privé, que, finalement, la réalisation d'un bien public qui doit être profitable à tous.
Citoyenneté. C'est sur Radio Parole de Vie.
Oui, je voudrais bien illustrer ce que Jean vient de dire, notamment avec un combat local qui a eu lieu il y a quelques mois, c'est la remunicipalisation de l'eau, où on a réussi à convaincre les gens que le public peut faire aussi bien, voire mieux que le privé, contrairement à ce que une sorte d'évangile néolibéral tant diffusé dans les médias. Voilà. D'autres sujets comme la dette également, qui a été très, très important dans les derniers mois.
Oui.
Et puis le traité transatlantique, qui est actuellement notre chantier pour les 5 mois qui viennent.
Juste... au niveau sémantique, Jacques Arel,
oui.
Vous avez dit évangile néolibéral.
Oui.
L'évangile, bon, dans l'étymologie, chacun sait, c'est bonne nouvelle.
Oui.
Néolibéral, est-ce que Il n'y a pas un...
Oui, c'est une métaphore abusive, vous avez raison de le signaler. Nous travaillons avec des organismes comme CCFD Terre Solidaire et des groupes qui clairement sont motivés dans une action d'envergure par une foi qui est une foi personnelle, qui n'est pas forcément liée à un prosélytisme. Et c'est vrai que l'expression est employée abusivement, je le reconnais. Ce qu'on veut dire, c'est que ça fait une parole de prétendument ouais. vraie, ce qui n'est pas le cas, bien sûr.
Alors, on va parler maintenant du contexte dans lequel s'inscrivent ces deux journées, hein, donc les 12 et 13 septembre. Qu'est-ce qu'on peut dire, Jacques Arel, sur ce contexte? Qu'est-ce qui vous amène finalement à organiser ces deux journées maintenant?
Voilà, alors le 12 et 13, nous serons à une semaine du prochain G20. G20 qui réunira les grands financiers de la planète. Et nous pensons que l'opinion publique peut se faire entendre, ici comme ailleurs, et que la multiplication des actions, des partages d'informations, des motivations partagées pour un changement, pour un monde meilleur, peut conduire les politiques à prendre en compte nos demandes. Donc ces deux journées rentrent dans ce cadre-là.
Donc vous marquez...
Oui, c'est vrai qu'il y a eu des lois, il y a eu des avancées sur les paradis fiscaux, mais quand on voit les médias titrer depuis 3 ou 4 ans, y compris les présidents de la République dire les paradis c'est fini, on sait bien que ce n'est pas vrai. Les paradis fiscaux n'ont jamais autant prospéré qu'aujourd'hui. Une enquête publiée par WARN, qui est une ONG internationale qui est sortie hier, montre que les pays du Sud, les pays en développement, perdent 1000 milliards par an qui partent vers le Nord, vers les banques, surtout les paradis fiscaux. Et qu'en fait, ces milliards pourraient, s'ils étaient taxés à un taux légitime par ces États, résoudre une bonne partie de leurs problèmes. Donc ça nous révolte. Et ce qui se passe actuellement, c'est que les pays qui connaissent la crise depuis 2008 comme les nôtres, franchissent les mêmes obstacles et rencontrent les mêmes obstacles que ces pays à un niveau évidemment différent.
Alors, quelqu'un me disait, il n'y a pas de crise, on ne reviendra pas comme c'était avant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas?
Les deux sont vrais, c'est-à-dire que la crise c'est la révélation, au sens étymologique, c'est-à-dire qu'on sait maintenant depuis quelques années que les crises se répètent et s'accélèrent. Donc le mode de fonctionnement du capitalisme néolibéral, c'est la crise. Et certains vont jusqu'à dire que la crise est un moyen d'intimider les citoyens, de les enfermer dans un fatalisme. Notre action en tant que mouvement d'éducation populaire, c'est précisément de montrer que les citoyens, une fois rassemblés par le biais d'associations, de syndicats, toutes les formules sont bonnes, peuvent prendre en charge leur devenir, leur avenir, et contrer ce fatalisme.
Il serait intéressant maintenant de détailler le programme qui nous est proposé. Alors tout d'abord à Jersey, et tout le monde est invité à prendre le ferry pour aller à Jersey le vendredi 12 septembre. Vous nous parlez des thématiques précisément que vous allez aborder, du programme de la journée, puis des intervenants?
Oui, alors le 12 septembre, donc, nous prenons le bateau très tôt le matin, et nous sommes accueillis par des Jerseyais d'Attac Jersey, qui est un groupe extrêmement courageux, militants, qui ont souvent des difficultés à organiser des événements comme celui-ci. Et nous rencontrons des grandes figures du combat pour la lutte contre les paradis fiscaux et l'évasion fiscale, l'évitement antisocial, comme on l'appelle maintenant, des gens comme John Christensen, qui est le responsable de Tax Justice Network, réseau pour la justice fiscale à l'échelle mondiale. Nous avons Suzanne George, qui sera là également, que beaucoup connaissent, qui est à la pointe du mouvement, disons, altermondialiste, pour faire simple, depuis des années. Et là, les thématiques tournent autour d'un sujet essentiel, et souvent négligé, le lien entre les paradis fiscaux et les droits de l'homme. On oublie que les milliards qui sont volés aux trésoreries nationales, notamment dans les pays en développement, ont un impact direct sur la santé, sur le manque de création d'hôpitaux, de cliniques, de soins. Le rapport WAN qui vient de publier dit que 3 millions de morts par an pourraient être évitées au moins avec une législation mettant en place une taxation claire et transparente pour la plupart des pays africains, pour l'Afrique seule. 1 000 milliards de dollars, c'est l'équivalent également de l'évasion fiscale au niveau de l'Europe. Donc ces sommes-là taxées à un taux légitime, défini par les parlements nationaux, permettrait de résoudre beaucoup de nos problèmes, y compris celui de la dette, par exemple, en France.
Voilà un programme qui attend tout un chacun, vendredi 12 septembre à Jersey.
Juste un point effectivement très important, c'est que nous allons rencontrer à Jersey aussi des membres de la société civile de Jersey, qui vont nous parler d'un paradis fiscal emblématique et montrer que les premières victimes des paradis fiscaux sont d'abord les habitants des paradis fiscaux, ce qu'on ne sait pas. Ça me paraît très important. Les touristes malouins vont souvent à Jersey pour faire du shopping, comme on dit, en oubliant la réalité sociale de cette île qui est située juste à côté de nous et qui illustre l'utopie, le microcosme, le laboratoire d'une certaine pensée néolibérale, puisque là-bas il n'y a pas de parti politique, puisque là-bas la plupart des associations qui veulent poser des questions sur l'évolution de la finance à Jersey sont vraiment réduites à néant par des menaces, par une vie difficile.
Donc là, c'est un engagement, effectivement, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, qui demande un certain...
Et aller à Jersey, c'est aussi concrètement apporter notre présence, notre soutien à ces gens-là qui en ont bien besoin.
Alors, vous organisez, sur le plan pratique, non pas un covoiturage parce qu'il y a de l'eau au milieu, il y a la Manche. Et Jean Wel, vous nous donnez quelques indications, les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, qui disent, eh ben, je vais me joindre aux membres d'Attaque ou d'autres personnes.
Oui, tout à fait. Nous avons lancé déjà un certain nombre de propositions d'inscription et nous avions donné donc comme date limite le 29 ou le 30 août. Et nous pouvons dire que, en accord avec la compagnie donc de Condor Ferries qui nous transporte, nous pourrons accueillir des chèques de 47,70 € jusqu'à, disons, mardi matin. Donc au-delà de mardi matin, ça deviendra très difficile. Si pour des raisons une personne n'a pas pu respecter ce délai, en ce cas-là, je me propose donc de donner un numéro de téléphone qui permettra donc d'avoir un contact rapide et j'espère efficace.
On peut le donner maintenant ?
D'accord, donc c'est le 06-79-37-05-70.
Voilà, 06-79-37-05-70. Voilà. Donc l'idéal, c'est d'être actif et de s'inscrire assez rapidement. Hein, pour
Plutôt sera mieux, ah. Ne serait-ce que pour la gestion paisible de ce dossier.
Bon, Jardin reste une belle île, hein ?
Ah, absolument. C'est une magnifique. Les îles anglo-normandes sont superbes. Ah oui, elles valent le détour, absolument. Et l'accueil il est formidable de la part des Jersey eux-mêmes.
Donc l'entrée est libre à Jersey aussi ?
L'entrée est libre à Jersey aussi, bien sûr.
Ouais. Je dis aussi, bien sûr, parce qu'on va parler maintenant de Saint-Malo, donc le samedi 13 septembre, ça se passe à la mairie annexe de Paramé, place Georges Coudray. À partir de quelle heure, jusqu'à quelle heure ?
À partir de 10h30, mais nous pourrons accueillir éventuellement des gens intéressés pour nous rencontrer avant. Hein, disons à partir de 10h ou à partir de 9h30, nous serons déjà sur pied.
Et à tout moment de la journée, l'accueil est ouvert.
Et l'accueil, bien sûr, et la rencontre avec les intervenants, qui sont des intervenants de haute volée, sera tout à fait favorisée.
Alors, oui, justement.
Oui, nous avons des gens de haute tenue dans ce domaine et qui sont d'une bonne volonté totale sur ces questions-là pour répondre aux questions les plus simples et les plus compliquées. J'insiste là-dessus, l'économie et la finance, ce n'est pas si compliqué lorsqu'on met à jour les logiques. Il les anime, et à ce moment-là, on tire le fil et le reste vient avec. De ce point de vue-là, quelqu'un comme Suzanne Georges est tout à fait pédagogue, et je pense qu'il est d'intérêt de tout le monde de s'intéresser à ces questions-là, et nous leur proposons justement 3 ateliers dans la journée où cet échange est possible.
Alors, pour compléter ce que tu viens de dire, je pense qu'on a entendu souvent des réflexions de gens disant « mais ce sont des gens qui sont tellement spécialistes de cette question que nous ne serons pas à même de comprendre leur discours ». Il faut savoir que c'est quelque chose qui est très abordable. Je prendrai mon cas personnel, je ne suis pas un économiste, mais c'est vrai que de rencontrer ces gens-là donne une culture économique et une compréhension des problèmes de la finance de façon très simple. Et cette simplicité, effectivement, est un bon argument qui est souvent donné par les tenants de cet obscurantisme, on va dire, politique, qui pensent que pour finalement comprendre la finance, il faut avoir un statut social, un niveau culturel ou des connaissances. C'est faux, c'est faux. C'est quelque chose qui peut se traduire par des exemples très concrets et très simples.
Oui, donc, je confirme pleinement. Oui.
Et on peut venir à tout moment de la journée, parce qu'effectivement, il y a le programme qui commence le matin, vous l'avez dit, jusqu'au soir.
Oui.
Mais si quelqu'un est très intéressé, ce dont je ne doute pas parmi les auditrices et les auditeurs, ne peut pas venir, par exemple, toute la journée, mais souhaite s'insérer dans un atelier en particulier, vous voulez nous donner les horaires
hein? Oui, donc le premier atelier commence à 10h30 jusqu'à midi. Hein, il est animé par Suzanne Georges et Thomas Coutreau, qui est un économiste d'Attaque. Le thème, c'est comment entraver la spéculation financière. Donc, au-delà des lois déjà votées au niveau national ou européen, que peut-on faire? Quel type de pression peut-on suggérer à nos députés européens et nationaux pour encadrer davantage encore et faire en sorte que la transparence souhaitable se produise? Le deuxième atelier a lieu à 13h30 jusqu'à 15h. Il est animé par Alain Deneau, qui est un Canadien qui vient du Canada spécifiquement pour cette rencontre.
Curlaine, alors?
Pardon?
Curlaine.
Curlaine, absolument. Et lui, sa grande spécialité, c'est les industries extractives en Afrique. Nous avons également Lucie Vatrinet, qui est une des responsables du CCSD Terre Solidaire, qui s'intéresse énormément à ces questions-là et qui est concrètement sur le terrain avec nous depuis des années. Et enfin, Xavier Arel, ancien journaliste de La Tribune, qui a publié un livre qui a fait date, La Grande Évasion, ainsi qu'une émission sur Arte, une émission sur Arte, qui s'appelait La Grande Évasion, et que certains ont sans doute vu. Le thème, c'est comment lutter contre l'optimisation fiscale. Là, c'est plutôt sur les entreprises transnationales qui jouent sur les différences de législation en matière de fiscalité pour ne pas payer d'impôts. On a entendu parler de Starbucks, d'Amazon, d'Apple, qui sont à Dublin, en Irlande, ou qui profitent de la Hollande, par exemple, pour ne pas payer d'impôts ou pour payer des taux dérisoires de l'ordre de 0 à 8% maximum, quand nos PME sont à 25-30%, aux États-Unis à plus de 30%. Donc là, il y a un travail à faire.
Qu'est-ce qu'on peut dire pour les personnes qui pourraient rétorquer « oui, mais on est trop taxé » ?
Alors voilà, le problème de l'impôt, là, on ne va pas le résoudre en quelques minutes,
mais
rappelez que l'impôt, comme le disait Roosevelt lui-même lors de la crise, se rappeler que Roosevelt, qui n'était pas un communiste ni un gauchiste, avait des taux d'imposition pour les plus hauts revenus à 75 et 80%, et qu'à l'époque, personne ne râlait parce que c'était un combat pour la démocratie contre les totalitarismes. Et les choses étaient claires. Aujourd'hui, on a oublié le sens de l'impôt, et donc Roosevelt disait, c'est le prix de la civilisation. Donc effectivement, quand on compare les impôts à travers les différents pays, il faut voir ce qu'en face, l'État met à disposition des citoyens, hein, le système éducatif par exemple, hein, le système de santé. On sait qu'aux États-Unis par exemple, il y a encore, malgré la réforme d'Obama, 33 millions d'Américains qui n'ont aucune couverture sociale. Donc toutes ces questions-là seront posées ce jour-là. Enfin, le troisième atelier qui commence à 15h15 et qui dure 1h, 16h15, que faire de la dette publique? Parce que pour nous, la question de la dette publique, dont on nous rabat les oreilles comme étant l'obligation d'austérité, de politique d'austérité, nous pensons que cette dette doit être discutée, doit être rediscutée, car il y a un concept utile pour les pays en développement, mais aussi de plus en plus pour le nôtre, c'est le concept de dette odieuse. Nous pourrons en reparler à ce moment-là, lors de l'atelier de 15h15.
C'est d'ailleurs pour essayer de clarifier un petit peu ce point que nous avons monté un collectif pour la création d'un audit justement de la dette publique. Et cet audit a publié un rapport, et dans ce rapport, on essaie d'analyser de façon, on va dire, objective, mais aussi très concrète, ce qui, dans la dette publique, relève effectivement des engagements de l'État et des investissements pour, on va dire, améliorer le quotidien des citoyens, et puis, d'un autre côté, ce qui relève soit de la crise de 2008, pour laquelle nous avons généreusement alimenté les banques suite à leurs erreurs de gestion. Et donc, on peut s'apercevoir, à l'issue de ce rapport, que ce que l'on vient nous dire pour justifier l'augmentation des impôts, l'allongement du temps de travail, la paupérisation des classes moyennes et populaires, et les atteintes aux droits sociaux, tout cela, en fait, a une explication qui n'est pas dans la logique de, justement, considérer que c'est la politique sociale du gouvernement qui a amené les déficits. C'est faux. Qui a amené les déficits, eh bien, les excès de la spéculation financière, les cadeaux aux multinationales, les baisses de charges, qu'on appelle poétiquement les baisses de charges, qui sont en fait des baisses de cotisations sociales qui sont destinées justement à améliorer le bien-être des populations. Et ça, on regardera très précisément dans l'audit de la dette publique ce qui relève de ce que l'on doit légitimement rembourser et de ce qui doit être remboursé par d'autres, notamment par ceux qui l'ont provoqué.
Alors, soyons clairs, Jean-Voël et Jacques Arel, votre combat, ce n'est pas un combat contre les banques, c'est plus une interrogation et faire avancer les choses pour qu'il y ait une sorte d'équité, une sorte de justice, si j'ai bien compris, c'est bien ça?
Oui, si on prend l'exemple de la NEF, par exemple, qui commence à être connue de beaucoup de gens, qui est une banque coopérative, il y a des banques qui pratiquent ce qu'on appelle maintenant l'éthique dans la banque. Mais la plupart sont soumises à une obligation de s'adosser à des banques de dimension internationale. Et là-dessus, on aimerait que la législation évolue, pour que des banques plus modestes, comme elles se sont développées dans les années 70 et 80, puissent exister avec précisément une transparence que les autres n'assurent pas. Quand on pense que la BNP a encore 212 employés à gérer, ce n'est pas pour acheter du chocolat local, bien entendu. Donc on sait qu'il y a des banques françaises qui ont été sauvées par les contribuables français, qui continuent à prospérer grâce à la spéculation dans les paradis fiscaux.
Alors, ça fait bondir ce que vous exprimez là. Quels sont les leviers dont on dispose concrètement pour agir, pour pas subir et pas rester
voilà. Nous, notre approche consiste à dire, c'est un travail politique. Les banques jouent, ou les entreprises nationales jouent sur les lacunes du politique. Il est logique, dans sa logique de profit, qu'une banque, une entreprise, puisse profiter des lacunes que les législations nationales ou internationales lui laissent. Et le ministre britannique des économies, Mme Thatcher lui-même, déclarait que l'écart entre l'évasion fiscale et la fraude fiscale n'avait que l'épaisseur d'un mur de prison. Autrement dit, un seul mot, une seule virgule peut trancher dans un sens ou dans l'autre. Donc nous faisons pression auprès des politiques, c'est notre rôle. Nous pensons qu'ils devraient assurer un rôle qu'ils n'assurent pas complètement dans ces combats-là, parce qu'ils n'ont pas d'information ou ils sont soumis à l'information unique des lobbies bancaires qui font en fait la loi.
Donc un contre-pouvoir, quelque part.
Absolument. La démocratie, ce n'est pas seulement voter, c'est aussi un dialogue entretenu par la vie associative, par la vie syndicale, par la vie des collectifs, entre le politique, les politiques, les décideurs qui travaillent pour nous, pour le bien commun, théoriquement, et les entreprises, les banques, les multinationales, par le biais des structures d'État ou par le biais des structures européennes. À ce titre, j'aimerais rappeler de nos actions qui ont donné beaucoup de résultats. Il y a en France 11 régions sur 18 qui se sont engagées à obliger leurs partenaires bancaires à diffuser en fin d'année dans leur bilan leur présence dans les paradis fiscaux. Et donc la région Bretagne a voté, absolument, a voté à l'unanimité. Et cette obligation va paraître dans la loi française à partir de l'année prochaine, hein, pour l'ensemble des banques françaises. Donc c'est une avancée qui vient du bas, enfin, qui vient d'une exigence démocratique portée par des mouvements comme CCFD, ATTAC, Oxfam, Survie,
mobilisés.
Voilà, on voit que finalement, contrairement à un discours qui est un discours démobilisateur, l'action paie. Et on peut se rendre compte d'un certain nombre d'avancées aussi que l'on voit au niveau européen. On peut considérer déjà que, par exemple, les banques suisses, qui sont les fers de lance un petit peu de la spéculation et de l'évasion fiscale, les banques suisses sont en train de perdre de l'argent, de perdre des clients, du fait d'un renforcement de la réglementation fiscale dans différents pays, notamment les États-Unis, mais pas seulement. Et puis, on voit que progressivement, dans la politique de l'Union européenne, il y a une tentative pour faire en sorte que, justement, la Suisse ne soit plus ce trou noir de l'Europe qui absorbait les capitaux de la spéculation.
Voilà, c'est un excellent exemple de pression politique. Obama est intervenu et a dit, voilà, si vous ne donnez pas le nom du déposant dans les banques suisses, vous n'aurez plus le droit d'exercer en tant que banque aux États-Unis. Ça a été radical du jour au lendemain, voilà. Les livres se sont ouverts. Et les banques suisses, hein, c'est un article que j'ai sous les yeux, la Tribune de Genève du 29 août, donc c'est tout récent, ont perdu 350 milliards de dépôts en 2013 du fait de cette décision. Voilà, donc du concret. Hein. Il ne s'agit pas de s'opposer à la prospérité des Suisses, hein, nous avons beaucoup de sympathie pour les Suisses, mais même que nous avons une profonde sympathie pour les Gerviers, mais nous voulons un monde plus équitable.
Voilà, et nous avons aussi, signalons-le quand même, la réforme bancaire qui montre qu'en France, avec la transparence demandée aux banques, nous avons les informations nécessaires sur la façon dont elles sont établies dans les paradis fiscaux. Et ça, c'est une avancée qui est due essentiellement à la pression qui a été exercée par les populations et les associations comme la nôtre, voilà, auprès de nos politiques.
Si je me permets juste une citation, c'est une citation d'une quinzaine d'années, le président de l'Assemblée des banques du Luxembourg disait « Comme un chevreuil timide, l'argent préfère rester là où il n'y a pas de bruit. » Notre travail, c'est d'amener justement du bruit, plutôt un dialogue démocratique.
Bien entendu, la lumière sur tout ça. Je vous remercie, Jean-Roël et Jacques Harel, donc membres d'ATTAC et membres du bureau, d'être venu nous parler de ces deux temps forts, hein, donc à Jersey les 12 septembre, le 13 à Saint-Malo, à la mairie annexe. Une journée, l'entrée est libre, c'est ouvert à tous, on peut venir en journée, on l'a bien compris. Ça s'appelle Paradis fiscaux, évasion fiscale, plein phare sur un monde obscur, pour un éclairage citoyen.
Merci
à tout un chacun. Merci à David Hermy qui est derrière la console. Au revoir à toutes et à tous.